tous et à toutes. Nous démarrons avec un petit léger retard. Un sujet extraordinaire à discuter, c'est de l'exploration des mondes marins aux océans du ciel. Donc nous avons, enfin, je dirais que l'imaginaire des auteurs de SF a été nourri par tout ce qui s'est passé avant, tous les récits qui ont pu être racontés avant, toutes les épopées maritimes. Mais alors, ce que l'on va essayer d'aborder, c'est est-ce que finalement on peut faire des parallèles ? Est-ce qu'il y a des différences ? Qu'est-ce que l'on peut dire sur les océans du ciel finalement ? Donc pour parler de cela, je vous présente le panel prestigieux que nous avons aujourd'hui. Donc, commençant par Pierre Bordage. Évidemment, il est difficile de le présenter ici alors qu'il a présidé Cisutopiale pendant plus de 10 ans. Je rappellerai juste qu'il a écrit un nombre impressionnant de romans qui ont été distingués par de nombreux prix. Nous y trouverons entre autres des space-opéras dont nous allons sûrement reparler tout à l'heure, tels que depuis les guerriers du silence jusqu'à la fraternité du Panka. Nous avons Jean-David Morvan, qui est scénariste de bande dessinée. C'est un auteur prolixe qui a travaillé ou travaille sur plusieurs séries à succès, entre autres Sillage et Nevis. Il est amateur de...
Même des séries qui n'ont pas de succès, j'en fais aussi.
Ah bon ?
Je les aime bien quand même.
Amateur de space opéra et de monde lointain, il a aussi adapté le cycle de Chai en bande dessinée. Olivier Paquet est docteur en sciences politiques, passionné de science-fiction. Il adore l'animation japonaise, les mangas. Il est chroniqueur de l'émission radiophonique Mauvais Genre sur France Culture. Il écrit essentiellement des nouvelles dans la revue Galaxy, mais a aussi publié un roman, Structura Maxima.
Ah, oui. Bon, je vais le dire, non, il n'a pas écrit qu'un seul roman.
Oui, entre autres, c'est-à-dire que j'ai publié à la Talente l'année dernière, il y a 2 ans, Les Loups de Prague, et donc cette année, le Melkin, premier tome d'une trilogie.
Il faut mettre à jour Wikipédia.
Je ne fais pas ma propre mise à jour. Si t'as, et puis de toute façon, non, ma page Wikipédia est à jour.
Ok.
Non, je l'ai retouché avant de...
Alors, parmi nous, nous avons aussi Sophie Nico, qui est titulaire d'un doctorat en interaction moléculaire plante-micro-organisme. Voilà. Elle a travaillé au CEA dans l'équipe du génoscope d'Evry. Elle a participé à l'expédition Tara Océan dans le Pacifique en 2011. À la suite de cette expédition, elle a publié un livre pour les juniors, Mission Tara Océan, journal d'une scientifique. Elle travaille désormais au sein de l'Institut de biologie environnementale et biotechnologie du centre du CEA de Cadarache. Et pour finir, parce qu'il en fallait un, Ayerdal. Alors pour le résumé, je trouve que l'étiquette qui lui est attribuée sur le site des Utopiales est parfaite. C'est l'homme en colère de la SF française. Il est de base un écrivain de romans de science-fiction et de thrillers, récompensé par plusieurs prix, dont un pour l'ensemble de son œuvre. Il est aussi très actif sur les questions de droits d'auteur, sur la révolution numérique. Alors, espace, océan, monde sous-marin, ce sont des endroits où finalement l'homme n'est pas naturellement à sa place. Pourtant, il y est présent, il explore ces zones du monde qui l'entourent avec un acharnement qui persiste avec les années. Depuis l'Antiquité et les premiers navires jusqu'à la station orbitale ISS qui vole au-dessus de nous en ce moment et où il y a des gens qui sont dans l'espace. Alors, je vais d'abord me tourner par la plus scientifique. L'océan, l'espace, au niveau scientifique, est-ce qu'on peut faire une comparaison ?
De premier abord, c'est un peu compliqué, mais ce sont tous les deux fluides, au niveau physique déjà. Ce que je vois, c'est que surtout dans... Il existe beaucoup d'interactions entre les océans déjà et l'atmosphère, donc entre les océans et le climat. Donc tout ce qu'on va apprendre sur les océans nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'atmosphère et le climat. Donc si on veut transposer ça pour les voyages dans l'espace, plus on en sait sur l'atmosphère et plus on en saura aussi sur... sur l'environnement et aussi comment recréer cette atmosphère dans sur d'autres planètes, par exemple.
Alors, je vais poser la même question, mais à un auteur de science-fiction, donc Pierre Bordage, est-ce que finalement les océans et l'espace, est-ce qu'on peut s'en servir de la même façon lorsque l'on écrit ?
Très probablement, oui. J'ai toujours été fasciné par l'Iliade et l'Odyssée.
Je vais me répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais voilà, pour au moins que je ne me contredis pas, enfin, j'espère. Et l'Iliade et l'Odyssée, surtout l'Odyssée qui raconte le retour d'Ulysse, et où son terrain de jeu, enfin son terrain d'aventure est la mer Méditerranée, avec beaucoup de dangers, parce que très inconnus, manipulés par des dieux souvent, avec des rencontres de créatures extraordinaires, non humaines, avec la magicienne Circé, avec Charybde et Scylla, enfin, etc. Il y a toutes ces espèces de grandes figures de l'altérité qu'il rencontre. Et il se trouve que le monde a un petit peu changé depuis Homère, et qu'on s'est rendu compte que finalement la Terre n'était plus le centre du monde, mais une petite planète perdue sur un coin de la galaxie, ce qui a déplacé un petit peu la perspective, et qui fait que le terrain de jeu, enfin, des aventures, s'est un petit peu déplacé avec le space opéra, parce qu'on est allé vers la zone inconnue qui nous restait, c'est-à-dire l'espace, et que quand on a envie de voyage et d'extraordinaire, de provoquer cette espèce de vertige propre au genre science-fiction, ben naturellement, je pense que les auteurs se tournent vers l'espace, puisque c'est inconnu, puisque c'est dangereux, et puisque de toute façon, personne ne viendra nous contredire. Donc, ça quand même...
Moi, je dirais quand même que il n'y a pas que l'espace qui est inconnu. En fait, on s'aperçoit que les océans sont complètement inconnus. C'est trois quarts de la superficie de la planète et pourtant, on ne connaît pratiquement rien sur ces océans, tant au niveau physique qu'au niveau biologique.
Oui, mais il y a une différence, c'est que les océans, même s'ils sont très, très inconnus, où on découvre des créatures sans cesse nouvelles, etc., c'est qu'on a la possibilité de le faire, pour l'instant, beaucoup plus facilement que l'espace. Donc on a l'impression, alors que c'est faux, probablement faux, puisque l'océan est un domaine assez inconnu, que c'est beaucoup plus facile d'y aller, même s'il faut beaucoup plus de moyens, paradoxalement, parce que l'auteur de Space Opera, c'est-à-dire si je vais dans le fond des océans, il va falloir que je donne un semblant de crédibilité, donc c'est comme si j'allais explorer, et qu'il me fallait des moyens pour explorer, que je vois exactement ce qui s'y passe. Dans l'espace, non, il n'y a vraiment aucune, enfin à mon avis, même si on a quelques notions d'astrophysique, aucune contradiction possible. Le vaisseau spatial n'existe pas, on est d'accord pour l'instant. On n'a pas la vitesse au-delà de la vitesse lumière, tout ça n'existe pas. Mais justement, c'est un terrain très propice, enfin pour moi, hein, très propice à l'imaginaire. Et je fais la comparaison avec l'océan d'autant plus que souvent, moi, j'utilise des créatures d'essence marine dans l'espace. J'ai des migrateurs célestes, par exemple, qui sont des sortes de baleines de l'espace ou des Xaxas dans les guerres du silence, qui sont aussi des créatures mythiques voguant d'un coin à l'autre de la galaxie. Voilà, moi, en tant qu'auteur d'imaginaire, l'espace me paraît un terrain extraordinaire parce qu'il a une très grande dangerosité, puisque, comme dans les océans d'ailleurs, hein, je veux dire, quand on est dans un bathyscaphe, on est quand même tout petit, un être humain tout petit au fond de l'océan, et dans le vaisseau spatial, dans... Le fait qu'on soit confiné dans un petit endroit devant une immensité, ça provoque des émotions ou des perspectives extraordinaires pour l'auteur que je suis. Ça m'excite énormément. Voilà.
Alors, donc, là, on vient de parler de l'océan et de l'espace. Maintenant, il y a l'homme. L'homme, quand il veut se déplacer, que ce soit dans l'espace ou que ce soit sur la mer, il utilise des moyens technologiques donc, qui ont été les bateaux, puis les bathyscaphes, les sous-marins et... Les vaisseaux spatiaux, alors pour l'instant, effectivement, nos vaisseaux spatiaux, ils existent, je suis désolé. Ils sont effectivement rudimentaires, mais nous savons aller au moins dans l'espace proche, puisque nous savons quand même aller jusqu'à la Lune, ce qui est déjà pas rien. Et donc, est-ce que. Alors, je vais me tourner vers Jean-David Morvan. Lorsqu'on dessine des vaisseaux, lorsqu'on prévoit des vaisseaux, lorsqu'on imagine des vaisseaux spatiaux, comme dans Sillage, où il y en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'on se sert des bateaux ?
Bah, ça a le même nom déjà, ça s'appelle des vaisseaux, donc en fait, oui, c'est la même chose, évidemment, c'est la même chose. Je voulais juste dire que, en fait, dans l'espace, il y a des gens, mais sous la mer, il y a aussi des gens, sauf qu'on ne peut pas leur parler parce qu'ils sont morts. En général, ils sont noyés, donc... Mais c'est la vraie différence, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens vivants éventuellement dans l'espace, mais sous la mer, non. Donc je pense que c'est ça la différence. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas rencontré de race, entre guillemets, intelligente sous la mer, donc... Et effectivement, je pense qu'on a l'impression que c'est plus simple d'y aller. Moi, j'essaierai pas, personnellement. Alors que dans l'espace, si j'avais la possibilité, peut-être que j'essaierais. Ça me ferait un petit peu moins peur. Après, pour les vaisseaux spatiaux, c'est surtout Philippe qui les imagine. Mais le gros avantage du vaisseau spatial, c'est qu'on peut lui faire à peu près n'importe quelle forme. C'est-à-dire qu'il peut avoir une forme d'aspirateur. Dans l'espace, ça pose aucun problème. Sur la mer, c'est emmerdant. Ça coule, quoi. Surtout si on fait une forme d'enclume, par exemple. Sur la mer, ça va pas du tout. Donc voilà, effectivement, on est plus libre pour tout ça dans l'espace.
Oui, alors moi, la différence, je pense aussi, entre les vaisseaux spatiaux et maritimes, c'est un truc, tous les auteurs ne s'en rendent pas compte, c'est qu'un vaisseau spatial, si on réfléchit par rapport à l'accélération, c'est que normalement, il devrait être en apesanteur. D'ailleurs, le navire que je décris dans le Melkin, c'est comme dans 2001, il faut qu'il y ait un moyeu pour créer une gravité artificielle. Mais sinon, et je trouve qu'il y a un aspect fun quand même de créer un navire où tout le monde se balade sans avoir de... Où, quand on fait cours, on pouvait avoir des élèves au plafond, le prof sur un côté, ou quand vous avez un studio, ça déploie l'espace aussi. Le fait d'être en apesanteur, c'est-à-dire que quand vous avez... Parce que l'un des problèmes des vaisseaux spatiaux, c'est normalement le problème du confinement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très petit. Sauf que finalement, la surface est démultipliée par les faces d'une chambre. Donc c'est aussi une autre... Il y a un aspect aussi intéressant à exploiter quand on est dans l'espace par rapport à la marine. C'est ça, c'est qu'on peut utiliser tout topologiquement, on est dans un autre univers. Et puis le dernier élément, et ça ce que aussi je pense que c'est ce que disait Pierre et qui est important, l'espace, surtout quand on a des navires qui ne vont pas au-delà de la vitesse de la lumière, c'est se réapproprier le temps. Et je trouve très important que on est dans une société avec Internet, de la rapidité, et ce que la marine nous a appris, c'est finalement les grands voyages à se réacclimater au temps. Parce que le temps du navire à voile, on ne peut pas l'accélérer. Hein. Et réapprendre aussi, par exemple, il y a des gens qui voyagent sur des supertankers. Supertanker, c'est un gros machin avec un moteur de tondeuse. C'est d'une lenteur. Et se réapproprier le temps. Et le navire spatial, c'est aussi se réapproprier le temps s'il ne va pas plus vite que la lumière. C'est aussi une considération différente. Et on parle de vaisseau spatial, ça va super vite, mais c'est aussi intéressant parce que ça va lentement. C'est aussi une autre manière du rapport au monde. Et un rapport au monde, en plus, sans horizon. C'est quand même aussi, par rapport à la mer, il y a un horizon. L'espace, il n'y en a pas. On peut dire, par exemple, quand on est sous l'eau, par contre, on n'a pas le problème d'horizon aussi. Donc il y a ce genre de choses aussi à exploiter différemment, à mon avis.
Voilà, tout ça m'inspire tellement de trucs. Attention, ça va être le boxon. Pour moi, il y a un rapport qui est extrêmement flagrant entre on va dire, les univers maritimes et l'espace. C'est le magnifique terrain de jeu, donc de découverte qu'il offre. Et je dirais que vis-à-vis de l'espace, nous en sommes à peu près au même niveau que... Alors on va prendre peut-être le mot erectus vis-à-vis de la mer. Mais vraiment pas plus. C'est-à-dire qu'on s'est envoyé deux, trois cochonneries dans l'espace juste à côté de chez nous. Mais au-delà de ça, si l'île n'est pas visible, on ne va pas construire une embarcation ou se coucher sur un tronc d'arbre pour aller traverser. Donc il y a à la fois quelque chose d'effrayant, et puis il y a aussi toute l'envie de découvrir ce qui est derrière. Là où ça devient amusant, c'est que autant la mer, dans cette conception, c'est un horizon, tel que tu le disais, autant l'espace, pour moi, c'est ce qu'il y a sous l'eau. C'est un univers extrêmement hostile. On ne peut pas vivre au-delà... d'abord, on ne peut pas vivre sans oxygène ou sans mélange pour respirer dessous. Donc ça veut dire qu'on est confiné dans un scaphandre, dans le meilleur des cas, ou on est confiné dans un bathyscaphe. En tout cas, on est confiné. Comme on le sera, ou comme on l'est, chaque fois qu'on envoie un homme dans l'espace, quelle que soit la distance, de toute façon, il n'aura jamais droit de toucher avec un doigt, ou avec le nez, ou avec quelque sens que ce soit, ce qu'est l'espace, ce qu'est le vide réellement. C'est assez... dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Enfin, je veux dire, à part George Lucas qui crie beaucoup dans tous ses films. C'est aussi une chose qui est à la fois très proche et très différente. Donc l'espace recouvre les deux dimensions de la mer, cet objet, cet ailleurs inconnu qui peut faire peur, mais il y a un horizon qui nous permet de dire on va y aller ou pas, ou qui nous permet à un moment, parce qu'on a les moyens technologiques, d'aller même là où on ne voit pas. Et puis, il y a ce confinement terrible. On est obligé de le faire dans une boîte, dans un milieu qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse la moindre erreur pour nous foutre en l'air.
Alors justement, puisqu'on parle de confinement et qu'on parle de boîtes que sont les vaisseaux spatiaux, que sont les sous-marins, ou qui étaient, sont peut-être un petit peu moins maintenant, les bateaux. Mais donc, je crois que vous avez vécu une expérience, vous avez était faire une expédition à bord d'un bateau. Donc on peut encore aujourd'hui choisir de se confiner à plusieurs sur un navire et à partir sur l'océan, même si ce n'est pas l'océan de l'espace. Mais...
Oui, je confirme, on était tous volontaires. Donc à 16 sur un bateau qui faisait 36 mètres de long et 10 mètres de large, bon, un peu plus large que la moyenne. Et c'était une goélette qui était affrétée avec tout le matériel scientifique. Et donc on est tous partis. Donc il y avait la moitié de l'équipage qui était des marins professionnels et l'autre qui était des scientifiques. Donc déjà, c'est deux mondes qui sont complètement différents. C'était aussi particulier parce que les marins étaient aussi multidisciplinaires, un peu comme les scientifiques. Donc les frontières étaient plus floues que ça. Mais effectivement, 16 sur un bateau pendant... Moi, j'ai fait que 5 semaines, mais la goélette est partie 2 ans et demi. C'est pas toujours évident à gérer. Il faut... Le capitaine a de lourdes responsabilités et je sais qu'il surveillait vraiment très près l'état psychologique de ses matelots parce qu'il faut que tout le monde aille bien, sinon c'est tout l'équipage qui est en danger. Donc il y a un esprit de groupe qui est vraiment formidable et qu'on retrouve moins souvent à terre. Et c'est particulier aussi parce que les gens qui sont envoyés, je pense, on peut faire un parallèle avec les navettes spatiales, c'est des gens qui sont choisis, qui sont souvent multidisciplinaires. Je sais pas, les cosmonautes, ils sont spécialistes dans plusieurs domaines. Et même s'ils sont physiciens, ils apprennent à faire de la mécanique, ils font des manips pour les biologistes, donc ils sont vraiment multidisciplinaires. Et sur cette goélette-là, effectivement, et je pense que les marins aussi, quand on est des petits équipages, on est obligé d'être multitâche. Et ça, c'est très riche et très, très formateur. Enfin, c'est vraiment très enrichissant comme expérience.
Alors,
pas toujours évident, mais parce que chacun a besoin d'un moment pour se retrouver. Mais donc, on avait les escales, heureusement.
Alors, on le voit, donc l'homme a beaucoup voyagé sur les mers, donc sans aller remonter jusqu'à l'Odyssée, où là, on peut mettre en doute certains réalismes des scènes qui sont décrites, mais il y a eu ensuite quand même beaucoup de récits de voyages maritimes au long cours, de tours du monde, d'accès sur des îles lointaines. Alors là, je vais me tourner vers les auteurs, alors j'en ai toute une palette d'auteurs. Est-ce que cela vous a servi? Est-ce que vous avez lu des livres de récits de voyages maritimes ou des choses comme ça pour imaginer les Odyssées ou vos personnages dans l'espace?
Oui, bien sûr, et puis plein, et puis je pense il y a Jules Verne et puis plein d'autres gens, des choses qu'on a pu lire, vieux des reportages aussi à la télé, sur internet ou n'importe quoi, mais c'est vrai que de toute façon, je pense qu'on se sert tous de ça parce qu'on a aussi des pirates dans l'espace, dans nos histoires, etc. Donc on se resserre toujours du maritime pour faire de l'espace parce que ça nous semble évident. Finalement, le truc, c'est qu'on peut pas inventer grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser ce qui existe déjà. Moi, c'est un exemple que je prends souvent. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a construit en tant qu'être humain, ça ressemble à l'être humain. C'est-à-dire on a besoin de manger pour continuer à vivre et on a inventé des voitures qui ont besoin d'avoir de l'essence dedans. C'est-à-dire, on n'a jamais pensé à inventer un truc, ou alors on n'y est pas arrivé, mais c'est peut-être parce qu'on n'y a pas pensé, qui ne soit pas comme nous, c'est-à-dire qui marche en permanence, on n'a rien inventé, qui ne meurt pas. En fait, donc du coup, on est toujours obligé de se regarder pour recréer des choses autres. Alors, il y a des inventions à l'intérieur de ça, mais même quand on crée des races extraterrestres, c'est extrêmement rare qu'on imagine un extraterrestre entièrement extraterrestre parce qu'on ne le comprendrait pas, donc notre lecteur lui-même ne le comprendrait pas. Et finalement, j'ai l'impression que dans ce qui se passe sous la mer, c'est presque plus des races extraterrestres que ce que nous, on peut inventer. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses... Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait avoir, je crois, respirer une sorte d'oxygène pour vivre. On s'est rendu compte qu'il y avait des créatures sous la mer qui ne respiraient pas du tout d'oxygène, qui vivaient près des sorties des volcans et qui vivaient autrement. Et ça, on ne l'avait jamais vraiment imaginé. Donc, on est vraiment captif de l'être humain. Donc ce qu'on réinvente, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc il va falloir vraiment qu'on rencontre d'autres trucs pour pouvoir travailler dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et tu soulignais, pardon, à juste titre, l'irréalisme des scènes décrites dans l'Iliade. On est d'accord, c'est des créatures mythologiques qui n'existent pas. Et c'est ça l'intérêt. C'est exactement ça l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est rencontrer quelque chose d'extraordinaire dans le voyage. Et c'est ça que peut nous réserver l'espace. Mythologique, hein, parce qu'on est d'accord, il n'y a aucune vérité scientifique là-dedans, on ne le sait pas. c'est de rencontrer l'extraordinaire, c'est rencontrer l'autre, c'est en même temps, alors avec cette dangerosité excessive de l'espace, c'est exalter les sentiments humains. Donc on est, c'est juste à la fois exalter l'humain par la découverte de l'autre, c'est-à-dire comment je vais réagir face à l'autre tellement extraordinaire que je ne peux pas le comprendre, et en même temps cette espèce de solidarité ou cette, ce microcosme dans le vaisseau, comment il va survivre, qu'est-ce qui va sortir de ça. Moi j'ai travaillé dans Absalon où les gens sont 120 ans dans un vaisseau, donc ça devient le vaisseau génération avec tout ce qui se passe autour, avec, et ce confinement permanent qui est terrible, qui devient l'horizon finalement des personnages et qui crée une autre forme de vie. Donc c'est mettre aussi les êtres, c'est toujours de l'humain. C'est l'humain, on ne parle, quand on va dans l'espace, c'est pour mieux parler d'humain finalement. On s'en fout que les créatures existent ou pas, au contraire, c'est ce qui fait le charme. Et je suis super content que Charybde et Scylla n'existent pas en Méditerranée, parce que ce qui m'intéressait dans l'Odyssée, c'était cette dimension extraordinaire, mythologique, que j'essaie de retranscrire dans l'espace. Et donc je reprends, alors ce que tu disais, on n'invente strictement rien, parce que effectivement les besoins humains sont exactement les mêmes que du temps d'Homère. Simplement, ils sont peut-être encore plus exaltés parce que l'espace est encore plus grand et il y a encore moins d'horizons, comme le disait Olivier, et que donc on peut peut-être assister à une métamorphose ou une évolution, ou en tout cas une initiation de l'être humain dans ce milieu extrêmement hostile.
Oui, et c'est vrai que l'extraterrestre finalement n'est jamais qu'un humain. Enfin, effectivement, c'est très important. L'extraterrestre, bon, il y a deux façons de le faire. Soit c'est un humain modifié, et très souvent les extraterrestres sont en fait culturellement des humains un peu parfaits. Mais on peut quand même faire des extraterrestres qui sont différents, mais quand même. Justement, le fait que ce soit différent, ça nous parle aussi de nous. C'est pas le fait que l'extraterrestre soit incompréhensible. Quand on a le Solaris de Stanislas Lem, donc l'océan conscient, c'est en dehors de l'humain, mais ça nous parle à nous. Justement, on parlait Solaris, c'est le cas de l'extraterrestre, de la relation entre l'humain et l'espace, puisqu'on a un océan qui est conscient. C'est aussi une possibilité de rejoindre l'espace et la mer. On oublie quand même de signaler cette œuvre de science-fiction qui réunit les deux mondes. Et une dernière chose aussi, la particularité des vaisseaux spatiaux, il y a plusieurs particularités. Ce qui est différent par rapport à ce qui se passe dans la marine, c'est-à-dire dans la marine, on a un navire, il part depuis un quai, il fait un périple. Des vaisseaux spatiaux, ils ne démarrent pas tous d'une planète. Et il y a on pourrait dire qu'il y a une des idées, c'est que finalement, les vaisseaux spatiaux les plus grands, ils ne peuvent pas arriver sur le sol, puisque pour les faire décoller, il faut des masses tellement énormes. Et pour que des vaisseaux spatiaux soient intéressants, on peut dire que pour qu'un vaisseau spatial soit intéressant, il faut que ce soit une arme de destruction massive. Parce que les moteurs qu'on va utiliser sont capables de détruire tout ce que... Là, on ne peut pas démarrer un vaisseau depuis sa base spatiale, on la coupe en deux et que ça démarre. Donc il y a aussi cet aspect gigantesque, et magnifique et terrifiant du vaisseau spatial, qui est quand même une arme, tellement les puissances... Si on regarde, on essaie d'inventer des moteurs qui permettent d'aller assez vite, sans même inventer des moteurs qui vont plus vite que la lumière. On maîtrise des normes physiques qui sont gigantesques. Si on regarde par exemple, dans un site internet, sur un roman, ils avaient calculé, donc c'était une corvette qui avait 20 missiles, tout simple comme tout, et les missiles, ils allaient à 0,6 fois la vitesse de la lumière. Et sauf que quand on faisait le calcul, quasiment cette corvette avec 20 missiles, elle pouvait détruire un système solaire entier, parce qu'avec les vitesses engagées, c'était tellement gigantesque. Donc on est aussi, c'est ça aussi la différence, dans l'espace, on atteint des puissances beaucoup plus grandes que ce qu'on a sur Terre. On n'est pas capable sur Terre d'obtenir ces grandeurs physiques. Et dans l'espace, on peut inventer ces grandeurs physiques, c'est ce qui permet d'avoir un space opéra militariste avec des choses. On peut détruire des planètes, peut-être même détruire des étoiles, pourquoi pas. Pour les hommes qui on aime quand même un peu être cassé des objets, on construit des maquettes et puis on les détruit. Là, on a de quoi faire avec l'espace. On peut détruire du gros. C'est pas mal aussi.
Ah, pardon. Je voulais revenir, moi, sur l'imaginaire des extraterrestres. Souvent, vous dites que c'est repris par rapport à nos formes, Mais par exemple, l'alien, ça a été repris d'après la forme d'un plancton, donc d'un micro-organisme marin. Donc c'est vraiment tout l'ordre du vivant. Et je revenais, c'est effectivement, si l'univers avait été fait à partir d'autre chose que du carbone, on n'aurait pas le même univers que maintenant. Et c'est quand même assez difficile pour nous d'imaginer ce que ça pourrait être.
Justement, ce qui est marrant, c'est que même en tant qu'auteur de science-fiction, on a aussi du mal à imaginer ce que ça pourrait être. Et pourtant, on fait de la science-fiction. Donc, c'est ça qui est amusant. Mais en fait, quand on parlait
des... Un petit peu en avance, mais pas tellement. Parce que les super navettes dans l'espace, ça pourrait exister. En fait, la science est toujours limitée par les technologies. On ne peut pas avancer plus tant qu'on n'a pas les techniques pour observer et pour... la science-fiction est juste un petit peu en avant et... Mais effectivement, imaginer un univers avec autre chose que du carbone, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chimistes ou de physiciens qui arriveraient à nous dire à quoi ça ressemblerait.
Non, on ne sait pas, mais bon, on peut le faire. Non, mais juste, et après j'ai fini. Je disais juste que, en fait, ce qui était intéressant avec les créatures mythologiques, finalement, qui, comme les extraterrestres aujourd'hui, c'est qu'elles sont évidemment humaines, c'est-à-dire que non seulement elles représentent des humains, mais encore plus, elles représentent des sentiments humains, c'est-à-dire Oedipe, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont magiques, mais qui parlent de et qui parlent en fait de l'être humain, des sentiments. C'est pas de la morale parce que ça fait pas, il y a pas une morale à la fin, mais disons que ça essaye d'expliquer l'être humain, comment il fonctionne, quelles sont les règles de vie à travers des récits inventés. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de ça qu'on peut se servir justement, et c'est pour ça, je pense qu'on a besoin de créatures intelligentes. Et pas juste d'animaux qu'on réussit finalement pas à comprendre, parce que quand on parlait tout à l'heure des créatures qui sont sous la mer et ou du plancton de Alien, c'est que on le comprend avec nos yeux à nous, mais on sait pas comment lui y pense. Donc
oui, mais justement Alien, c'est un cas, justement c'est de l'agressivité pure sans intelligence. Enfin, il a une intelligence en tant qu'extraterrestre, mais il n'y a pas de communication possible. C'est l'agressivité pure de délibérée Alien aussi. C'est ça, c'est aussi intéressant d'avoir un extraterrestre qui est tellement d'un autre, tellement différent qu'il ne peut pas y avoir de contact, sauf la mort. Donc c'est aussi, il y a ça aussi qui est intéressant quand même dans Alien.
Mais ça stigmatise...
Charybde. La définition de Charybde, c'est là.
Mais ça symbolise ces monstres-là, ces extraterrestres, ça symbolise un peu nos peurs de l'inconnu, les peurs de ce qu'on pourrait découvrir en allant dans l'espace, au fond
même
des mers.
Aussi, hein.
Moi, je voulais apporter quelques précisions et corrections. D'abord, contrairement à ce que dit Pierre, Charybde et Scylla, ça existe. Ce sont deux librairies absolument fabuleuses à Paris. Et qui, en plus, s'intéressent particulièrement à nos genres de prédilection. Une autre précision, il y a dans... La science-fiction, globalement, elle est anthropomorphe. Et nos extraterrestres et les mondes dans lesquels on fait évoluer nos personnages, nos humanités ou nos non-humanités, ils sont vus à travers nos yeux. Donc on les construit avec nos références sociales, sociétales, psychologiques, enfin toutes ces habitudes, tout cet habitus qui constitue l'humanité. Mais ce n'est pas toujours vrai, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que le titre ne te revenait pas. Il y a un bouquin d'Al Clement qui s'appelle « Question de poids ». Je ne sais plus le titre en anglais, mais on le trouve chez Ailleurs et Demain et aussi au livre de poche. Donc, Question de poids d'Al Clement. Il y a dedans des extraterrestres qui, mais alors, n'ont strictement aucun rapport, ni psychologique, ni sociologique, ni avec l'humanité. C'est peut-être le seul réel ouvrage de science-fiction qui parle d'une espèce étrangère, alien. Quand on construit Alien... Quand on construit la bête alien, je veux dire, quand on l'imagine, on se sert de. On fait référence à cette haine qui conduit au racisme, à ces peurs qui conduisent au racisme et qui constituent l'humanité. Il y a des civilisations indiennes qui, quand elles ont vu débarquer pour la première fois, c'est les Arawaks, je crois, quand elles ont vu débarquer pour la première fois, pas Colomb, mais ses petits copains derrière, se sont empressés de les massacrer. De la même façon qu'Alien s'empresse de nous massacrer. Mais lui, il a encore une meilleure raison, parce que globalement, il faut pondre, il faut se nourrir, etc. Voilà. Et il y a un autre truc qui me vient à l'esprit tout à coup, comme ça, il y a un quart d'heure. En fait, ce qui est le plus fascinant dans les océans, dans la mer, dans ces horizons, c'est aussi ce qui est le plus fascinant dans l'espace, c'est les îles et les continents. ces îles dans lesquelles, ben oui, on va pouvoir trouver à manger, trouver de quoi vivre, et puis vivre quelque chose d'autre que ce qu'on vit chez nous en Europe ou aux États-Unis ou sur Terre. Et puis les continents qui vont nous permettre d'aller nous installer ailleurs et d'évacuer, par exemple, des problèmes d'alimentation, de surpopulation, d'écologie, de pollution, etc., etc. Waouh, je fais fort. Hein.
Alors, c'était, je suis content de la transition. C'était le point sur lequel j'avais envie de revenir. On a parlé, on a parlé de l'espace par rapport à l'océan, la surface de l'eau ou l'eau, le fond, la masse d'eau de l'océan par rapport à la masse de vide, excuse-moi, de l'espace. Et on a parlé effectivement des rencontres que l'on peut faire. On peut ramener ça aux indigènes, enfin des gens qu'on. Des gens qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre, que l'on n'a encore jamais rencontré avant. Mais effectivement, le média pour rencontrer ces indigènes, c'est bien l'île, hein, c'est le point d'arrivée. Alors, effectivement, bon, les bateaux, on disait tout à l'heure, les bateaux, les vaisseaux spatiaux, moi, je ferais un bémol là-dessus, puisque les plus gros bateaux, vous parlez des tankers, ils ne viennent pas jusqu'au bord, ils s'arrêtent avant le bord et il faut une petite navette pour aller jusqu'au bord. Et donc les îles, est-ce que la notion d'île et la notion de planète, vous arrivez, enfin, est-ce que vous en servez comme parallèle dans votre esprit lorsque vous imaginez des planètes ou des voyages, des arrivées?
Je vais juste répondre un peu à autre chose, mais que en fait, je trouve que la différence qu'on a aujourd'hui entre l'exploration spatiale et avant, il y a longtemps, l'exploration maritime, c'est que les mecs qui partaient en bateau, ils savaient pas où ils allaient. En fait. Alors que nous, on sait où on va aller, tout du moins au début. Après, dans la science-fiction, la vraie science-fiction, on découvre des trucs. Mais en fait, quand les types ils partaient sur des bateaux, ils ne savaient pas ce qu'il y avait en face. Ils ont découvert un monde, quoi. Nous, d'une certaine manière, aujourd'hui, avec la technologie, ce qu'il y a autour de nous, on le connaît. On ne le comprend pas forcément, mais on sait qu'on va aller sur Mars, on sait qu'on va aller sur la Lune, on l'a vu. Donc aujourd'hui, dans l'espace, par rapport à la réalité, on navigue à vue, ce qui n'était pas... On sait, eux ils savaient pas. Donc je pense que ça fait une différence.
Alors moi je mettrai un autre bémol, c'est que dans les océans effectivement on connaît la cartographie, mais on explore maintenant le monde de l'invisible, donc le microplancton, et on connaît absolument rien. Là on pourrait essayer de refaire la carte un peu de l'arbre de la vie de ce plancton. Pour l'instant on la connaît pas du tout. Et il y a un parallèle avec l'espace parce que effectivement l'infiniment petit dans l'espace, on connaît pas encore tous les éléments qui constituent un atome. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a un beau parallèle entre les deux.
Ah oui, il y en a de toute façon, c'est sûr.
Mais alors l'île, donc les Iliens, donc les populations autochtones, que souvent les explorateurs se sont hâtés transformer à leur mode de pensée ou à leur mode de vie. Et c'est fort à craindre, c'est souvent ce qui se passe dans les récits aussi de science-fiction, c'est que, parlant d'anthropomorphisme, on veut anthropomorphiser, c'est-à-dire que souvent, c'est ce qui s'est passé, on a occidentalisé, on a voulu occidentaliser les populations indigènes qu'on a trouvées sur les différentes îles, parce qu'il y a une sorte de légitimité qui s'installe, qui est celle de l'idéologie, hein, c'est-à-dire qu'on va pour évangéliser les masses et pour faire leur bonheur à ces gens qui vivent nus dans la jungle, qui ne savent pas ce que c'est que Dieu, ni le Christ et tout ça, qui est totalement insupportable. Donc avec les extraterrestres on se heurte à un autre problème qui est celui de peut-on anthropomorphiser un extraterrestre et souvent la réponse est négative dans le sens où l'extraterrestre celui qui peut aussi c'est l'autre qui est complètement différent qui a un système de fonctionnement complètement différent
au moins qui est inconnu
totalement inconnu et qu'on va aborder de façon et en plus on est piégé nos auteurs de science-fiction parce qu'on utilise les mots pour raconter des. Je salue l'initiative par exemple du groupe Magma qui a inventé une langue qui s'appelle le cobayen pour exprimer autre chose. Bon, personne ne le comprend, hein, à part eux. De la même façon qu'on pourrait, si on voulait parler d'une race extraterrestre, ils sont obligés d'utiliser leur propre langage qu'on ne peut pas comprendre par définition. Donc, de toute façon, on est piégé. On utilise nos mots. Nos mots sont chargés d'histoire, chargés d'humanité. Et donc, on va forcément aller dans l'humanité, quoi. Et c'est un petit peu le piège des auteurs d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais aller plus loin dans l'imaginaire que ce que donnent les mots. Moi j'aime beaucoup cette légende inuite où il dit que le mot crée la forme et que si on prononce mal le mot, ben, la forme elle devient un peu bizarre, quoi. Donc faire gaffe quand on crée quelque chose parce que si on prononce mal on va avoir un animal de bosse par exemple ou un truc comme ça. Et il y a cet aspect là qui est à mon avis fondamental.
Non, ça c'est mon bouquin là, t'es en train de me piquer.
Non, c'est les droits chez ces inuits, je crois que c'est libre de droit. Évidemment que, quelles que soient les îles que l'on voit ou les nouvelles populations et tout ça, c'est toujours nous qui nous racontons à travers nos mots, et quelle que soit l'altérité, quelle que soit la différence qu'on voit avec les nouvelles civilisations, nouvelles races et nouvelles espèces, on ne va parler toujours que de nous finalement. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas anthropomorphiser les extraterrestres, parce que ce qu'on anthropomorphise, enfin, j'ai un peu de mal avec ce mot, anthropomorphiser, c'est moi qui ai choisi le mot, ouais, merde. On s'anthropomorphise soi-même, quoi, finalement, parce que je pense que le space opéra, c'est une exploration de l'être humain dans toutes ses dimensions. Son principal, à mon avis, intérêt.
Alors, les îles.
Alors, moi, j'ai triché parce que dans mon roman, il n'y a quasiment pas d'extraterrestres. Enfin, mais les gens se déplacent de planète en planète parce qu'en fait, l'humanité a choisi un coin de l'univers où elle pouvait se disperser. Où elle voulait, comme on voulait, mais c'est plutôt à ce moment-là façon, non pas les îles, mais façon ouest américain, c'est-à-dire on explore une terre, un espace tellement grand que les gens peuvent se poser quelque part et créer une culture, et en fait on va voyager dans l'espace de culture en culture, qui peuvent être autonomes selon les désirs de chacun, de créer une culture différente. Parce qu'il y a aussi une chose, l'humanité peut profiter de l'espace pour se réinventer. L'humanité ne va pas rester éternellement elle-même jusqu'à l'infini, et que l'espace est aussi une manière pour l'humanité de se modifier, de profiter de la technologie pour faire du autre, du différent. Avec le space opéra, on peut créer des humains qui sont des aliens. C'est pas simplement des humains qui rencontrent des extraterrestres, mais l'humain de l'espace est aussi un alien. Imaginons que vous viviez sur la Lune, et bien les conditions de la gravité et autres font que vous avez peu de chances de pouvoir revenir sur Terre, parce que vos muscles, votre corps, votre squelette ne supportera pas le changement de gravité. Vous pouvez aller dans un sens, mais pas revenir. Et alors, ces gens, ces sélénites, pour reprendre le terme, eh ben, ce seront des extraterrestres. C'est la même chose pour le fameux roman de Bradbury, enfin les chroniques martiennes. À la fin, ce sont les martiens, effectivement, ce sont des humains qui habitent maintenant sur Mars. C'est aussi à partir de quand on arrête de faire référence à la Terre, ou quand on s'installe sur une planète, on devient vraiment de cette planète. C'est aussi un enjeu aussi d'exploration. Parce que tous les indigènes des îles, il y a beaucoup, par exemple, les Japonais qui pensent qu'ils sont issus depuis la princesse Amaterasu, tout ça, ce sont des gens qui n'étaient pas du Japon. Ils sont venus sur l'île. Ils se sont installés. Il y a les Aïnous qu'ils ont essayé de repousser et puis d'éliminer. Mais il y a des tas de peuples de ces îles c'est des nomades qui sont installés là, et puis qu'à un moment qu'on décidé que ce lieu, ça leur appartenait, que c'était là où ils étaient bien. C'est aussi quelque chose pour les planètes, pour l'exploration. Il y a un moment où il faut décider qu'on n'est plus simplement un humain, on est du lieu où on est, sur la planète où on est.
Alors, la définition pourrait s'appliquer aux Américains. Hein.
D'accord, donc là on parle de lieux, de gens. Alors par contre, c'est vrai que les marins d'autrefois étaient finalement, ils avaient un lieu de naissance, mais ils étaient plus de la mer finalement que d'autres choses. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Sillage, entre autres. L'idée de ne plus être de nulle part tout en étant, enfin on a un héritage, mais on est. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire lorsqu'on est sur le bateau? Est-ce qu'on a envie d'y rester?
C'est très curieux parce que quand on est sur le bateau, on a très envie d'aller explorer les îles, et quand on est sur les îles, on a très envie de retourner sur le bateau. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que ce que j'ai ressenti, les marins qui le vivent quand même toute l'année, pendant toute leur carrière, constatent la même chose. C'est cette dualité, cette envie à chaque fois d'aller découvrir d'autres terres, mais aussi de retourner sur l'eau.
Donc quitte à aller même jusqu'au bout, donc de vivre dans des vaisseaux spatiaux.
Oui, dans Sillage, il y a des planètes, mais en fait la planète c'est l'inconnu, et la vraie vie c'est dans les vaisseaux, quoi. C'est un grand convoi de vaisseaux spatiaux qui suivent et tout le monde vit selon sa race ou même des fois séparé. Enfin, ça dépend, les gens vivent où ils veulent, mais en tout cas, ils vivent sur les vaisseaux, ils avancent en permanence. Donc, c'est une ville flottante, quoi, finalement. C'est un peu ça. Et quand ils rencontrent quand ils rencontrent des planètes, ils doivent décider ce qu'ils vont en faire. Donc, soit les explorer, soit non, soit les utiliser, soit il y a des lois qui empêchent normalement d'attaquer directement les planètes ou d'aller voir les gens tout de suite. Normalement, il y a un processus. Évidemment, il y a des gens qui comme partout, ne vont pas le suivre parce que soit il y a des pirates, soit il y a des industriels qui veulent piller les ressources, etc. Donc, finalement, c'est un voyage permanent vers des endroits ponctuels. Et une fois qu'on l'a trouvé, on repart. Il n'y a pas d'envie de rester. Alors, le premier tome de Sillage, c'était justement un peu l'inverse. Justement, c'était une race qui n'avait plus de planète, qui était en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans les vaisseaux spatiaux à cause d'une maladie, du mouvement permanent des vaisseaux spatiaux. Donc, ils sont obligés, eux, de retrouver une planète. Et comme ils vivent dans une espèce de chaleur, ils ont besoin de beaucoup de chaleur, on leur alloue une planète et ils vont la rapprocher du soleil pour la réchauffer. Et donc, pour pouvoir revivre. Donc, et finalement, ils retombent sur une héroïne qui va les empêcher de le faire. Donc là, l'histoire, c'était l'inverse. C'était justement des gens qui voulaient se réapproprier une planète. Voilà.
À propos, justement, de la question des lois, et justement dans l'espace, et toujours dans la condition où les vaisseaux spatiaux ne vont pas plus vite que la lumière. Et je m'étais posé la question, justement, en Space Up, il n'y a plus de loi dans l'espace. Parce que si vous enfreignez une loi, la police, elle mettra combien de temps à venir? Et donc, le système que j'ai mis en place, c'est tout fonctionne selon un code d'usage. Parce que finalement, il y a une solidarité. Tous les gens, tous les vaisseaux spatiaux ont intérêt à pouvoir arriver sur une station spatiale, un astroport. Donc il y a une sorte d'intérêt général de tous les vaisseaux pour que ça fonctionne bien, que la cohabitation. Donc il y a une sorte d'usage, de droit d'usage qui permet, mais il n'y a plus d'autorité supérieure parce que les distances sont tellement grandes que cette autorité, elle n'a aucun pouvoir. Donc si jamais vous n'êtes pas content, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en même temps, si vous êtes sous pression, il n'y a personne qui viendra vous défendre. Donc il y a un intérêt général de tout le monde à bien s'entendre dans l'espace. De même que dans la mer, il y a une sorte de code marin, mais qui a un intérêt de tous. Et tout le monde a intérêt, c'est pour ça que tout le monde a intérêt à aider. Tout de suite, le fait, quand il y a quelqu'un qui annonce qu'il a un problème, tout le monde a intérêt à aider, parce que le jour où moi-même j'ai un problème, j'ai intérêt à ce que tout le monde respecte cet usage. Et il n'y a pas de police pour forcer cet usage. Mais tout le monde y a intérêt. Et ça aussi, il y a peut-être un lien. Et pour ça, la solidarité des marins, on peut retrouver la solidarité dans l'espace, parce que justement, il n'y a pas d'autorité qui va intervenir rapidement pour.
Sur un bateau, il y a l'autorité du capitaine.
Oui,
il a
droit. Mais pas d'autorité générale.
J'allais te dire, les révoltés du Bounty seraient assez surpris. C'est
exactement au même mot. Même mot. Bounty.
Bounty. Non, il y a un truc qui est amusant. D'abord, quand on écrit de la science-fiction, quand on fait du space opéra, on s'est affranchi du problème du voyage les trois quarts du temps parce qu'on utilise des portes spatio-temporelles, on dépasse allègrement la vitesse de la lumière, on passe dans des trous de verre. Enfin, en fait, on essaye de se débarrasser de tout ce qui risque de rendre notre récit ennuyeux.
Sauf si c'est un principe de base du récit, qui est la longueur du voyage.
Ah oui, non, mais je croyais que tu parlais du dernier Welbeck, moi. Et autre chose qui est amusant, il y a tout l'aspect. Bon, effectivement, vous êtes confronté à débarquer sur une île, un continent, donc une planète sur laquelle il y a déjà une civilisation plus ou moins évoluée ou pas. Mais il y a aussi le cas où il n'y a pas de civilisation. Et c'est ce qui est le plus fascinant en termes d'exploration science-fictive, à mon sens, n'est pas la rencontre entre une espèce colonisatrice, parce que on se connaît bien l'espèce humaine. On commence à savoir que partout où on va aller, on va foutre le bordel. Et on va essayer de tout plier à nos idées, à nos trucs. Mais s'il n'y a rien, comment on va faire? Et ça c'est génial, parce qu'on ne pourra pas passer un coup de fil à la Terre-Mère et lui dire s'il te plaît, là on a un petit problème, on n'est pas d'accord entre nous de ce qu'on va faire de tel endroit, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, dans 8644 ans, très exactement.
Bien, je regarde le chronomètre, il nous reste 3 minutes. Alors, je suis désolé pour le public, on va pas avoir le temps de laisser poser les questions. Je vous proposais de, faire une petite phrase de conclusion, ceux qui le veulent. On n'a pas abordé le dixième de ce que j'espérais qu'on puisse aborder, parce que c'est un sujet tellement vaste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le mot de la fin ?
Responsabilité. Bah tiens, tu...
non, je peux dire que, alors si c'est pour un truc comme ça, je peux dire que autant je sais nager, mais je ne sais pas aller dans l'espace, donc voilà. Ce sera ça pour moi.
Très bien, vas-y.
Mais vraiment, le Space Op, il paraît qu'il y a du new Space Op maintenant, enfin, il y a tout un tas de définitions, mais c'est quand même un genre extraordinaire, quoi. C'est un genre qui transcende, à mon avis, le genre SF. Parce que, justement, il reprend des grandes figures mythologiques et des grands modes narratifs qui traversent le temps, à mon avis.
Un tout simple, c'est celui qui fait qu'on a cette espèce de putain de curiosité, on veut savoir plus, on veut en voir plus, on veut en découvrir plus. En ce moment, la science-fiction est un genre qui se porte pas très très bien, au cas où vous l'ayez pas remarqué, dans les librairies depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années même d'ailleurs, ça décroît, et depuis un an ou deux, on constate un renouveau d'intérêt. Et moi, je sais exactement pourquoi, et je remercie tous les astronomes, les astrophysiciens qui passent leur temps à découvrir des planètes autour de systèmes stellaires qui sont pas très loin de chez nous, et qui tout d'un coup réveillent cette curiosité, cette envie d'aller voir ailleurs, que je n'avais pratiquement plus, et qui d'ailleurs m'avait amené à écrire de vulgaires thrillers au lieu d'écrire la science-fiction.
Mais nous en reparlerons demain, s'il y a une conférence sur ce sujet. Monsieur Sophie. Bien, écoutez, juste à l'heure, donc je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie
nous, on est juste à l'heure.
Je remercie énormément nos invités.
Merci.